Donc aujourd'hui, nous allons continuer notre série sur le livre d'Osée. Nous allons lire au chapitre 10, les 8 premiers versets. Nous lisons pour la gloire de notre Seigneur. Israël était une vigne féconde qui rendait beaucoup de fruits. Plus ses fruits étaient abondants, plus il a multiplié les autels. Plus son pays était prospère, plus il a embelli les statues. Leur cœur est partagé, ils vont emporter la peine. L'Éternel renversera leurs autels, détruira leurs statues. Et bientôt ils diront, nous n'avons point de roi, car nous n'avons pas craint l'Éternel. Et le roi, que pourrait-il faire pour nous? Ils prononcent des paroles vaines, des serments faux, lorsqu'ils concluent une alliance. Aussi, le châtiment germera comme une plante vénéneuse dans les sillons des champs. Les habitants de Samarie seront consternés au sujet des veaux de Beth-Aven. Le peuple mènera deuil sur l'idole et ses prêtres trembleront pour elle, pour sa gloire, qui va disparaître au milieu d'eux. Elle sera transportée en Assyrie pour servir de présent au roi Jareb. La confusion saisira Éphraïm et Israël aura honte de ses deux saints. C'est en fait de Samarie, de son roi, comme de l'écume à la surface des eaux. Les hauts lieux de Beth-Aven où Israël a péché seront détruits. L'épine et la ranse croîtront sur leurs autels. Ils diront aux montagnes, couvrez-nous, et aux collines, tombez sur nous. Parole du Seigneur. Amen. Frères et sœurs, il existe une silencieuse tragédie qui arrive souvent dans nos vies chrétiennes, dans notre cheminement chrétien. Il s'agit d'un peuple qui pense adorer Dieu, mais qui en réalité construit ses propres autels. Un peuple qui parle de Dieu, parle sa loi, cite ses lois, construit des lieux de culte, mais dont le cœur est partagé, dont le cœur est corrompu, dont le cœur est divisé. Et c'est la tragédie d'Israël au temps d'Osée, et c'est une tragédie sur laquelle, si nous ne veillons pas, peut-être elle sera également la nôtre. Le prophète Osée parle à un peuple ici qui est prospère. La vigne d'Israël est féconde. Le royaume semble stable. La religion bien en place. Les autels pour l'adoration abondent. Mais derrière cette façade de piété, Dieu voit une infidélité creuse, un culte qui est corrompu. Et un peuple qui multiplie ses autels tout en oubliant l'alliance faite avec son Dieu. Et ce chapitre 10 d'Osée est une dénonciation percutante de cette hypocrisie religieuse. Dieu révèle que la prospérité d'Israël ne fait que alimenter son idolâtrie. Plus Israël est prospère, plus il alimente son idolâtrie. Il expose un cœur partagé, une fidélité qui est uniquement de façade, un culte qui est souillé par le péché. Et il annonce un jugement qui est sans appel. La Bible, cependant, examine attentivement ce péril. Par exemple, Moïse écrit dans Deutéronome 8, verset 11, « Garde-toi d'oublier l'Éternel. » Ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je prescris aujourd'hui. Moïse a averti que si la prospérité détournait le cœur du peuple de Dieu, il serait jugé en Deutéronome 8, verset 19, et nous lisons, « Si tu oublies l'Éternel ton Dieu, et que tu ailles auprès d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. » Que vous périrez. Et donc, selon Moïse, la prospérité matérielle constitue une menace grave pour la foi et le salut. Mais Osée 10 est plus qu'une mise en garde contre l'Israël ancien. Parce que Osée ici nous tend un miroir. Osée nous tend un miroir. Il interroge nos vies, il interroge nos églises, nos habitudes dans l'église. Il nous pousse à examiner ce que nous avons bâti. Est-ce que nous avons élevé des autels pour Dieu? Ou des veaux dorés à notre image? Vivons-nous une foi fondée sur la vérité de la parole de Dieu? Ou sur nos préférences? Ou sur nos émotions? Ou sur nos traditions? Et donc aujourd'hui, nous allons regarder ce texte sous le titre de « La vigne et le veau », deux symboles qui sont puissants, une la prospérité apparente d'un peuple et l'autre l'idole cachée qu'il sert vraiment. Donc mon premier point, des versets 1 au verset 2, « La vigne destructrice ». Et donc au premier verset, les mots « Israël était une ville féconde » peuvent être traduits de deux manières différentes. Donc l'image est celle de feuilles abondantes, de sillons. Quand on parle de sillons, on parle de, lorsque vous voyez dans un champ, d'ananas, en fait tous les espaces. En fait, c'est bien taillé, c'est bien séparé, ainsi de suite. Donc on voit des terres fertiles où il y a des plantations qui germent. Mais le mot traduit par féconde ou luxuriante aussi dans d'autres versions peut aussi signifier destructrice. Et le contexte de ce passage montre clairement que c'est ce double sens qui est en jeu. Plus précisément, les mots qui rendent beaucoup de fruits, qui rendaient beaucoup de fruits, signifient qu'Israël a utilisé son succès et sa prospérité pour son propre bénéfice. C'est-à-dire qu'ils avaient toute cette richesse, mais qu'ils ne considéraient pas comme un don de Dieu, mais que c'était de leur ressort, que ça revenait à eux, que c'était d'eux, en effet. Le Seigneur avait planté cette vigne pour la gloire de son culte et de son service. Et en Israël, la prospérité terrestre était favorable, avait favorisé le déclin spirituel, de sorte qu'au lieu de vivre en remerciant Dieu pour ses bénédictions, le peuple l'avait complètement oublié. Israël avait oublié son Dieu, le Dieu de l'Alliance. Osée montre comment la prospérité d'Israël, qui défie Dieu, s'est exprimée principalement sous des formes religieuses. Toujours au verset 1, plus ses fruits étaient abondants, plus il a multiplié les autels, plus son pays était prospère, plus il a embelli les statues. Les autels et les statues font référence aux lieux de culte élaborés, ornés, que les Israélites construisaient sur des hauts lieux. Quand on parle de hauts lieux, c'est des endroits de pèlerinage. On peut prendre l'exemple de la Mecque, aujourd'hui, qui est considérée comme un haut lieu. Donc, les gens se déplacent à des endroits pour adorer. Et à cet endroit, il mêlait le culte du Seigneur au culte du faux dieu Baal. Donc, on voit toujours que ce syncrétisme ressort. Il priait Baal, mais en même temps, il priait aussi. Il rendait un culte à Dieu. Les autels étaient souvent érigés sur ces hauts lieux en violation de la centralisation du culte à Jérusalem. Donc c'était déjà une violation du culte que de se retrouver sur ces hauts lieux. Et les statues étaient des piliers, des images idolâtres que les hommes ont conçues en guise d'adoration. Et dans ces lieux sacrés qui témoignaient avant tout de l'aisance des adorateurs, le but n'était pas de faire une offrande de sainte révérence au vrai Dieu, mais de s'assurer encore plus de prospérité. Mais le problème était que leur culte ne correspondait pas à ce que Dieu avait prescrit ou souhaité. Ça ne venait pas de sa parole. Et comme Baal était considéré comme la source des bonnes récoltes, le peuple pratiquait l'idolâtrie en même temps qu'il invoquait le Seigneur. 1 Samuel 16, verset 7, nous rappelle une vérité importante. Nous lisons, « Et l'Éternel dit à Samuel, « Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » L'Éternel regarde au cœur, frères et sœurs. Parce que nous pouvons venir à l'église, dire les bonnes paroles, prier et montrer notre dévotion, disons, devant le Seigneur et devant les autres. Mais qu'en est-il vraiment de notre cœur? C'est Dieu seul qui sait ce qu'il y a dans nos cœurs. Dieu seul sait réellement qui sont les vrais adorateurs. Ce que le Seigneur a trouvé en Israël était vraiment troublant. Au verset 2, nous lisons, « Le cœur est partagé, ils vont emporter la peine. » Israël avait été appelé à aimer l'Éternel son Dieu, de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force, en Deutéronome 6, verset 5. Mais là, ils n'aimaient pas ce Dieu exclusif. Leur cœur était partagé. L'expression « cœur partagé » évoque un cœur divisé, instable, sans loyauté entière. Le cœur dans la Bible désigne le centre de la volonté, de la pensée et de l'affection. Ce peuple n'affectionnait pas leur Dieu. Ce peuple n'aimait pas réellement ou exclusivement son Dieu. Israël est infidèle dans son adoration. Il veut servir Dieu tout en poursuivant les idoles. Et cette duplicité, c'est une violation à l'alliance. Dans Deutéronome 6, verset 5, en fait, Dieu exige un amour exclusif. Cela souligne la corruption radicale du cœur humain. En Romains 3, 10, verset 12. Et un cœur qui a besoin de renouvellement par l'Esprit. Et lors du jugement, Dieu enlèvera les autels et les statues qui étaient à la fois le produit et le mécanisme de leur cœur confondu. Au verset 2, l'Éternel, Osée dit, « L'Éternel renversera leurs autels, détruira leurs statues. » L'Éternel renversera. Ici, on voit un verbe qui est actif et qui souligne aussi la souveraineté de Dieu. Que Dieu est souverain sur tout. Il décide de briser qui il veut. Et il va briser ses autels. Il va briser ses idoles. Parce que son peuple ne l'est pas fidèle. Dieu détruit les objets de la confiance idolâtre du peuple. Cela correspond à la manière dont Dieu purifie son peuple, souvent par le feu et du jugement. On le voit dans Malachie 3, des versets 2 à 3. C'est une façon pour Dieu de purifier son peuple, d'enlever tout ce qui est mauvais, comme on dit, de faire table rase. Dieu ne partage pas sa gloire avec d'autres. Dieu ne partage pas sa gloire. Dans Ésaïe 42, verset 8, nous lisons « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à ni autre, ni mon honneur aux idoles. » Et toute adoration qui ne procède pas de la vérité révélée, du sola scriptura, est fausse et sera détruite. Et Osée ici ne parle pas seulement à Israël. Osée nous avertit tous. Tous ceux qui ont bénéficié des biens faits de la vie que Dieu fournit, mais qui répandent dans une poursuite égocentrique du péché, que si nous ne nous repentons pas et nous ne tournons pas dans la foi véritable du Fils de Dieu, en suivant sa parole divine, le jugement annoncé par Osée à Israël se frayera un chemin jusqu'à nous. Les idoles dans nos vies peuvent prendre tout type de forme. Tout type de forme. La métaphore de la vigne est fréquente dans l'Ancien Testament. Dans Ésaïe 5, les 7 premiers versets, elle désigne souvent Israël en tant que nation choisie et une nation qui est bénie de Dieu. Ici, Osée dénonce une prospérité religieuse qui renforce l'idolâtrie. Les fruits abondants ne mènent pas à la reconnaissance, mais à la construction de nouveaux autels païens. Pour Jean Calvin, Dieu ne condamne pas la beauté extérieure en elle-même, mais l'usage pervers qui la détourne de son véritable objet, à savoir sa propre gloire. Et nous le voyons aujourd'hui de nos jours. Nos églises, les compromis qu'ils font avec la parole de Dieu. Ils font des alliances avec le monde, avec les païens, pour une vaine gloire, pour grossir des églises, pour se faire une renommée. Mais Osée ici nous parle du jugement de Dieu lorsque nous ne marchons pas selon sa parole, uniquement et exclusivement. Mon deuxième point, le mépris de l'autorité de Dieu, des versets 3 et verset 4. Nous lisons au verset 3. Et bientôt ils diront, nous n'avons point de roi. Le verset 3 ici marque un point de bascule. Israël, dans sa détresse, admettra la futilité de son gouvernement royal. Un roi qu'ils ont eux-mêmes établi sans la crainte de Dieu. Et ici, nous constatons que ce n'est pas une repentance sincère, mais une constatation qui est amère. Et ça arrive tardivement. John Gill note que ce n'est pas ici la voix d'un cœur repentant, mais d'un peuple accablé et désespéré sous la main du jugement divin. Parce qu'ils se rendent compte que le jugement est sur le point d'arriver. Et là, ils se rendent compte, en effet, que leur roi leur est inutile. Ce constat est amer, soit parce que le roi est renversé, au verset 7, soit parce qu'ils reconnaissent qu'il n'a jamais eu d'autorité réelle pour les sauver. Parce que c'était un humain aussi faible que nous le sommes. Israël croyait pouvoir survivre sans l'Éternel en s'appuyant sur ses dirigeants, sur des alliances et en ses autels aussi. Mais au jour du jugement, ces idoles humaines sont révélées comme vaines, sans force. Et toujours au verset 3, nous lisons qu'ils ont placé leur espérance dans leur roi, pensant qu'il serait leur salut. Mais voyant qu'il ne peut rien faire, ils sont contraints d'admettre leur folie. Dieu les frappe dans ce qu'ils estimaient comme leur force. Et le peuple ajoute, et le roi, que pourrait-il faire pour nous? Et là, il se pose la question. Et le roi, que pourrait-il faire pour nous? Et donc, après avoir dépeint Israël comme une vigne abondante, mais point rentable, ce qu'on peut dire, le prophète ici ajoute maintenant le mépris d'Israël pour l'autorité donnée par Dieu. Parce que c'est vrai que c'était des rois humains, mais ce sont des rois qui ont été établis par Dieu. C'est vrai que la dernière lignée des rois était composée d'usurpateurs illégitimes qui se sont emparés du pouvoir par la violence. Cependant, le peuple aurait dû désirer le type de leadership qui serait possible avec des rois pieux. Ils auraient dû être alarmés par l'état de leur roi. Ils auraient dû prier pour que Dieu leur donne un roi à son image. Mais au lieu de prier leur Dieu, de soumettre tout à leur Dieu, ben ils ont continué à adorer les idoles. La raison de leur échec en matière de leadership était leur attitude qui était irrévérencieuse, qui n'était pas respectueuse à l'égard de Dieu. Celui en qui ils plaçaient leur confiance est désormais inutile. Cela souligne un principe central du gouvernement biblique. Toute autorité humaine est subordonnée à la Seigneurie divine. Romains 13, verset 1, « Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. » Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Quel que soit ce que nos premiers ministres, nos rois font, nous ne devons pas avoir d'attitude irrévérencieuse envers eux. Nous devons prier pour eux. Et si nous constatons que nous n'avons pas un dirigeant du calibre de Jésus, parce que ça n'arrivera pas, mais priant le Seigneur afin qu'il puisse pourvoir. Priez sans cesse pour qu'il puisse pourvoir pour des dirigeants. La phrase clé ici, c'est « Car nous n'avons pas craint l'Éternel » au verset 3. « Car nous n'avons pas craint l'Éternel » au verset 3. Ici réside la racine du mal. La racine du mal, l'absence de la crainte de Dieu. C'est la racine du mal, l'absence de la crainte de Dieu. Et cette crainte révérencieuse de l'Éternel est le fondement de la sagesse. Proverbe 1, verset 7. Cette crainte de l'Éternel est le fondement de la sagesse. En ayant rejeté son Dieu, Israël a construit un système religieux et politique autonome, mais qui était sans fondement spirituel. Ce verset révèle leur péché fondamental. Ils n'ont pas craint l'Éternel. Leur roi est impuissant parce qu'ils ont rejeté celui qui donne et ôte l'autorité. Tout simplement. Ils ont rejeté celui-là, ce Dieu Tout-Puissant, qui qui donne l'autorité et qui la ôte également. Cornelius Van Til nous dit que l'homme cherche à organiser l'ordre politique et religieux sans fondement transcendant. Mais le résultat, c'est quoi? C'est le chaos. C'est comme sans Jésus-Christ. C'est le chaos. Israël, sans son Dieu, c'était le chaos. Et nous devons prier pour chercher la volonté de Dieu. Prier le Seigneur pour qu'il nous donne des autorités. Pour qu'il mette en place. Parce que c'est lui qui met en place les rois, qui met en place les dirigeants. Même dans l'Église. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas de pasteur, qu'on n'a pas de pasteur, qu'on doit se plaindre, qu'on doit se lamenter. Mais nous devons prier. Nous avons des églises qui n'ont pas de pasteur, mais ils sont tous les jours en train de prier afin que Dieu puisse pourvoir pour la moisson, que des ouvriers puissent venir et s'en remettre à Dieu. Parce qu'il est souverain sur tout. C'est lui qui met en place, ce ne sont pas les hommes qui mettent en place. Certains commentateurs suggèrent qu'Israël s'est éveillé à son besoin de repentance, mais trop tard. Et les archives ne montrent aucune inclinaison du peuple à se débarrasser de ses idoles ou à réformer sa vie. Ils n'avaient même pas le désir de se repentir, ni de réformer leur vie. Ils étaient passifs, au lieu d'avoir cette inclinaison. Prier le Dieu de l'Alliance, afin qu'il puisse intervenir. Dans l'Église comme dans l'État, aucune autorité humaine ne sauve si elle n'est pas soumise à Dieu. C'est une leçon pour nous qui plaçons parfois notre sécurité dans la politique, dans des leaders religieux, dans nos pasteurs, ou par l'influence humaine. Je fais un constat depuis un certain temps, je pense que j'ai aussi entendu Pascal le dire dernièrement. On voit des gens qui interviennent sur Internet. C'est comme s'ils sont malades parce que Donald Trump est arrivé, McCurney est là. Mais ces personnes sont faibles. Ces personnes vont mourir. Elles sont là juste pour un temps. Pourquoi ne pas appeler notre Dieu? Pourquoi ne pas le prier? Pourquoi se faire tant de mal parce qu'un tel est en place, un tel est en place? Mais ça ne veut pas dire parce qu'ils sont conservateurs qu'ils vont faire exactement ce qu'ils ont prévu de faire. Le cœur humain, du moment où il est en place, qui vous dit pas qu'il est là pour se faire plein d'argent dans les poches, qu'il est là pour faire avancer des choses dans son agenda? On ne connaît pas leur agenda. Ce sont des hommes faibles et limités. Mais nous avons un Dieu en qui nous pouvons faire confiance. Et c'est ce Dieu-là qui met en place les rois et les dirigeants de ce monde. Pourquoi ne pas nous appuyer sur lui? Afin qu'il fasse ce ménage par sa grâce, et qui mettent des personnes en place qui vont être aussi, qui vont le craindre. On peut se dire que ça n'arrivera jamais, mais rien n'est impossible à notre Dieu. C'est vrai que depuis des années, on voit des rois rester aussi longtemps, mettre en place des abominations. Mais Dieu seul sait pourquoi ces choses arrivent. Parce que lui, il a décrété toutes choses. Il est souverain sur toutes choses. Et il nous appelle à lui faire confiance. Et dans tous nos tourments, dans toutes nos difficultés, dans tout ce que nous vivons, reposons-nous en lui. Faisons-lui confiance entièrement. Israël dit, nous n'avons point de roi, mais le vrai problème... Ici, c'est qu'ils n'ont pas la crainte de Dieu. Ils y n'ont pas de roi. C'est pas vrai. Mais en fait, ils n'ont pas la crainte de Dieu. Les dérives morales et sociales sont des symptômes. Mais la racine de tous ces problèmes, elle est spirituelle. Parce qu'ils n'ont pas fait confiance à leur Dieu. Dans un monde où nous avons, en effet, comme je l'ai mentionné, des rois impuissants, Dieu nous donne un roi qui est fidèle. Jésus-Christ n'est pas un dirigeant humain faible. Non, il est le roi souverain. Il est pleinement digne de notre confiance et nous pouvons nous appuyer sur lui. Au verset 4, Osée raconte la pratique de l'infidélité qui a corrompu le caractère d'Israël. Il prononce des paroles vaines, des serments qui sont faux lorsqu'il conclut une alliance. Et ici, la description qu'Osée montre, il manque une tendance ici dans ce peuple qui est frauduleuse. Il faisait facilement des promesses sans avoir l'intention de les tenir. Et donc, avec peu de confiance dans les promesses des autres. Il ne se faisait pas confiance. Le mot hébreu traduit par « parole vaine » désigne littéralement des paroles creuses, sans substance ni vérité. Cela évoque les promesses faites sans intention sincère, les prières qui sont hypocrites, les engagements religieux formels, mais qui sont vides. Et la même situation prévaut dans nos relations conjugales aussi, dans lesquelles les vœux de mariage sont si faciles à rompre. Les lois sont conçues pour faire de la formule jusqu'à ce que la mort nous sépare, comme une mascarade. On se lève un matin, j'ai plus de sentiments pour toi, on met fin à un engagement qu'on a pris devant les hommes et devant Dieu. Et on est même capable de briser ces alliances par notre infidélité. Dans une culture telle que celle d'Osée et la nôtre, l'intégrité et la fidélité des croyants authentiques ont une grande valeur. Ont une grande valeur. Et c'est ce que nous devons être en tant que chrétiens. Fidèles dans notre engagement. C'est pas qu'aujourd'hui je veux devenir membre et du lendemain matin, je crois plus à la 589, non. Non. S'il y a un type de personne dont la simple parole devrait être inviolable et pour qui une poignée de main équivaut à un contrat légal, c'est bien le chrétien. C'est bien le chrétien. En matière d'honnêteté et de fidélité, il devrait y avoir entre un chrétien et un non-croyant un contraste que même le monde sans scrupule remarque. Mais de nos jours, ce n'est pas le cas. On se mélange tellement. On a un pied dedans, on a un pied dehors. Nos églises ne prêchent même pas la vérité. Nos églises ne sont pas fermes sur la discipline d'église. Nos églises font des compromis avec le péché. Comment les non-croyants pourront nous voir? Comment nous pourrions être des témoignages pour les non-croyants? Par conséquent, lorsque les chrétiens rompent leurs vœux de mariage ou utilisent des échappatoires pour violer leur contrat, ils portent un grand préjudice au témoignage de l'Évangile. Un grand préjudice à l'Évangile. Le formalisme religieux sans transformation du cœur est une offense à Dieu. Cela fait écho au principe que la foi véritable se manifeste dans une obéissance sincère, selon Jacques 2, verset 17, et non simplement dans une profession de foi verbale. Israël faisait des alliances avec des nations païennes, comme l'Égypte ou la Syrie, pour assurer sa sécurité, tout en prétendant dépendre de Dieu. Le mot « jurer faussement » montre cette duplicité. Israël utilise le langage de l'alliance, mais sans loyauté ni fidélité. C'était juste devenu comme une image, mais intrinsèquement qui était vide de sens. Dieu exige une loyauté exclusive. Les alliances humaines placées au-dessus de la confiance en Dieu sont une forme d'idolâtrie politique et spirituelle. C'est comme mettre tous nos espoirs dans nos épargnes, dans notre argent qui est en banque. Parce que Dieu, à un moment donné, peut décider, vous avez vu toutes les crises financières qu'on a eues, il y en a qui sont allés se pendre parce que leurs investissements étaient descendus, n'avaient plus rien. Ça, c'est mettre ses espoirs dans des idoles. Pourquoi se suicider à cause de ça, alors que nous savons que nous avons un grand Dieu qui est vivant, qui peut prendre soin de nous en tout temps? Pour les croyants que nous sommes, cela illustre la nécessité de vivre dans une dépendance totale à la souveraineté de Dieu. La situation décrite par Osée pouvait entraîner la ruine de la société, comme il le note ici au verset 4. Aussi le châtiment germera comme une plante vénéneuse dans les sillons des champs. Ici, la vigne féconde du verset 1 se révèle être une mauvaise herbe qui est devenue nuisible pour le peuple. Ce jugement est comparé à une plante toxique. Dans un sol qu'on entendait fertile, qu'on attendait aussi fertile, on trouve la mort. Les conséquences du péché ne sont pas seulement spirituelles, elles sont visibles et elles font des ravages. Elles ont fait des ravages pour ce peuple. Et le péché non confessé, frères et sœurs, produit une moisson de mort, comme nous lisons dans Galates 6, des versets 7 à 8. Ce principe de rétribution divine est central pour nous qui sommes chrétiens. La justice de Dieu n'est pas abstraite. Ce que nous lisons n'est pas abstrait. Elle s'exprime historiquement et aussi de façon eschatologique. Et nous le voyons dans l'Apocalypse. Que nous puissions confesser nos péchés sincèrement, nous détourner de nos idoles, de ces autels que nous bâtissons. Des fois, nous ne nous rendons pas compte, mais demandons le discernement à notre Dieu, afin de les identifier, de demander pardon et de revenir à une foi sincère à l'évangile de notre Dieu. Amen. Mon troisième point, parce qu'on est trinitaire, mon troisième point, la vigne détruite par le jugement de Dieu, des versets 5 au verset 8. Et donc, la dernière section de ce passage montre que la vigne transformée en herbe est détruite par le jugement de Dieu. Osée commence par passer de la fausse splendeur des hauts lieux et de la corruption de la capitale d'Israël au monument le plus célèbre de la nation, le veau d'or. Le veau d'or de Bethel, qu'on a rebaptisé ici Beth-Aven. Et donc Beth-Aven ici, c'est un jeu de mots sur Bethel, qui est maison de Dieu, transformée en maison du néant ou maison de la destruction. Osée montre que l'idolâtrie religieuse sur toutes ses formes, même sous des apparences de tradition, mène à l'effondrement et la perte de ceux qui la pratiquent. Ils pratiquaient un faux culte. Parce que adorer un veau d'or qui était fait à l'image des hommes et non du Créateur, c'est toute une abomination. Leur adoration n'était pas basée sur ce que Dieu enseignait dans sa parole. Ce n'était pas sur du sola scriptura. Et lorsque nous lisons, par exemple, dans notre confession de foi, au chapitre 22, au paragraphe 1, là on parle du principe régulateur du culte, c'est quoi le vrai culte religieux? Nous allons lire au paragraphe 1, chapitre 21. La lumière de la nature montre qu'il est un Dieu qui a seigneurie et souveraineté sur tout, qui est juste, bon, fait du bien à tous, et qui par conséquent doit être craint, aimé, loué, invoqué, cru et servi par les hommes de tout leur cœur, de toutes leurs âmes et de toutes leurs forces. Quant à la manière de lui rendre un culte, c'est Dieu lui-même qui l'a ordonné et précisé par sa volonté révélée, de sorte qu'aucun culte ne peut lui être rendu selon l'imagination et les méthodes des hommes, ni selon les suggestions de Satan, sous quelque représentation que ce soit, ou de quelques autres manières non prescrites dans les Écritures saintes. Amen. Donc, on peut se dire que tous les hommes adorent. Cependant, en raison du péché, tous les hommes adorent, cependant, en raison du péché, aucun homme laissé à la seule lumière de la révélation générale, c'est-à-dire que tout ce qui est en dehors de la parole de Dieu, n'adore le vrai Dieu. Bien que la révélation naturelle manifeste la gloire de Dieu, on le voit dans le psaume 19, des versets 2 à 5, elle ne manifeste pas la façon exacte dont il faut révérer cette gloire. Ainsi, toutes les formes d'adoration qui ne sont pas fondées dans la révélation biblique ne peuvent être agréées. Seul le culte chrétien est approuvé de Dieu. Cela ne signifie pas pour autant que tout ce qui se réclame de la parole de Dieu lui offre nécessairement un culte acceptable selon la parole de Dieu. Et donc Dieu seul a la prérogative d'établir le culte qui lui est agréable. Dieu seul. Adorer Dieu selon la fantaisie de l'imagination humaine, selon Exode 20, 4, 5, lui est détestable. L'Écriture est pleinement suffisante pour établir la juste adoration. L'Écriture est suffisante. On n'a pas besoin de rajouter ni d'extraire quoi que ce soit. L'introduction de pratiques extra-bibliques tend à annuler l'autorité de Dieu. Il est insuffisant de s'abstenir uniquement de ce que Dieu proscrit. Il faut s'en tenir strictement à ce qu'il prescrit en Deutéronome 12. Il n'est pas suffisant d'adorer le vrai Dieu, il faut l'adorer uniquement de la manière qu'il a lui-même prescrite dans sa parole et nulle part ailleurs. Osée a déjà prédit l'enlèvement du grand veau d'or que le premier roi d'Israël avait érigé à des fins d'adoration. Il souligne à présent la peine que cette perte suscitera dans le cœur du peuple. Nous lisons au verset 5. Les habitants de Samarie seront consternés au sujet des veaux de Beth-Aven. Le peuple mènera deuil sur l'idole et ses prêtres trembleront pour elle, pour sa gloire, qui va disparaître du milieu d'eux. Ici, la description du peuple et des prêtres qui pleurent le veau d'or est scandaleuse. Est scandaleuse. Le veau d'or représentait pour eux une autorité qui était au-dessus de Dieu. Sa perte signifiait l'effondrement de l'identité d'Israël. Et elle-même sera transportée en Assyrie comme tribu au grand roi Jareb. Au verset 6, elle sera transportée en Assyrie pour servir de présent au roi Jareb. L'idolâtrie d'Israël allait jeter le peuple dans la honte. La confusion saisira Éphraïm et Israël aura honte de ses deux saints. Au verset 6, en réalité, le culte du veau d'or ainsi que les hauts lieux de l'idolâtrie avaient toujours été une source de honte pour ce peuple. Avec le veau d'or, les richesses matérielles que le peuple avait aimées et le prestige qu'ils avaient accumulé seraient également emportés et perdus. Ils allaient tout perdre. Ils perdraient leurs ressources, ils perdraient leurs richesses. Ils perdraient le veau d'or, ils perdraient leurs autels, ils perdraient tout. Osée conclut en décrivant le jugement final que Dieu infligera au royaume du Nord. Des versets 7 au verset 8. C'est un fait, c'est en fait de Samarie, de son roi. C'est fait de Samarie, de son roi, comme de l'écume à la source des eaux. Les hauts lieux de Beth-Aven où Israël a péché seront détruits. L'épine et la ronce croîtront sur leurs autels. Ils diront aux montagnes, couvrez-nous, et aux collines, tombez sur nous. Bien que le roi assyrien soit à l'origine de cette destruction, mais c'est la main de Dieu qui a exécuté ce jugement. La ville de Samarie a été détruite de son roi et a été renversée. Osée compare le dernier roi à de l'écume à la surface des eaux, en référence à son impuissance à faire quoi que ce soit, à son impuissance à influencer et à diriger sa nation dans la direction de la vraie adoration. De même, les lieux de culte somptueux seront désormais des lieux où l'épine et la ronce croîtront sur les autels. Chers frères et chères sœurs, toute structure religieuse ou ecclésiale qui ne repose pas sur la parole de Dieu et la gloire du Christ va être menée à la ruine, va être détruite. Si nos églises ne se reposent pas uniquement sur la parole de Dieu, c'est le chaos, ça va être le chaos. Et cela vaut aussi pour nos propres cœurs. Selon 2 Corinthiens 10, 5, Dieu détruira nos idoles personnelles. Nous voyons dans ce jugement une réponse appropriée de Dieu à la rébellion du péché. Le peuple était pris d'orgueil à cause de sa vigne qui était féconde, à cause des richesses qu'ils avaient amassées, des richesses qu'ils mettaient, disons, dans la faveur de Baal, que c'était à cause de Baal qu'ils avaient toutes ces richesses. Et ils mettaient aussi leurs espoirs dans leur veau d'or, qui faisait la gloire de la nation d'Israël. Mais tout cela allait être détruit. Tout cela allait être disgracié. Ainsi le roi au verset 7, les lieux de culte au verset 8, le veau idolâtre, tout allait être balayé. Leurs lamentations seront si grandes qu'Osée utilise un langage qui servira plus tard à décrire le désarroi des condamnés lors du jugement dernier, au retour de Jésus. Couvrez-nous et aux collines, tombez sur nous. Et il disait aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. » Apocalypse 6, verset 16. Et cela souligne le jugement final contre un peuple qui est infidèle. Un peuple qui ne craint pas son Dieu. Un peuple qui vit selon ses idoles, qui suit ses idoles et qui relaie la grâce de Dieu, son pouvoir, en second rang. Quelques applications. Premièrement, nous voyons ici que la prospérité spirituelle et même matérielle peut être un piège pour notre marche chrétienne. Être riche, quand je parle de richesse, c'est des fois il y a des églises qui ont toute une panoplie d'activités d'église. Un compte en banque bien rempli, qui peut faire face à tous les obstacles. Dans des bâtiments de haut rang érigés, avec des matériaux de grande valeur. Mais ce n'est pas ça dont Dieu a besoin. Il n'a pas besoin de l'apparence externe, mais il a besoin d'un corps qui fait révérence à sa royauté. Une église peut bâtir des ministères, des structures, et surtout avoir une très bonne musique aussi, de beaux instruments. Mais si cette église ne se répond pas de ses péchés, que vaut tout cela? Si elle ne reconnaît pas son Dieu, si elle ne se confie pas en son Dieu, mais se repose dans tout ce qu'elle possède, tout cela, comme nous le voyons ici dans Osée, sera balayé et sera détruit. Deuxièmement, les autels modernes sont plus subtils. Nous vivons dans une société où les réseaux sociaux nous environnent. Tout devient un peu subtil. Et l'idolâtrie moderne peut être le confort. On est tellement bien chez nous qu'on ne peut pas aller à l'église, communier avec les frères. Ben, je veux regarder le direct. Et c'est ça. Parce que chez nous, ça devient comme une idole. Ça devient tellement bien qu'on ne peut pas sortir de chez nous pour aller adorer avec les frères et sœurs. Le succès ministériel aussi, les traditions humaines, l'attente de la reconnaissance des hommes. Notre confession de foi nous appelle à un culte prescrit aussi par la parole de Dieu, non modelé par la culture et non par nos goûts. Parce que notre église n'a pas tous les instruments, ben je préfère rester chez moi. Non. Nous, on chantait a cappella, gloire à Dieu, avant d'avoir des maestros comme Dani ici. Mais on chantait a cappella. Mais c'était à la gloire de notre Dieu. C'était la gloire de notre Dieu. Ce n'était pas parce qu'il nous fallait un confort pour adorer le Dieu, notre Dieu, non. Troisièmement, le jugement commence par la maison de Dieu. 1 Pierre 4, verset 17, nous lisons, « Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu ?» Dieu ne tolère pas l'hypocrisie. Le jugement d'Israël commence dans le culte et dans sa religion, et non chez les païens. Et cela nous pousse à examiner nos cœurs, nos motifs, nos pratiques communautaires. Cornelius Vantil écrit que toute adoration est fondée soit sur l'autorévélation de Dieu, soit sur une autorité idolâtre. Et il rajoute, il n'existe pas de terrain neutre. Il n'existe pas de terrain neutre. On ne peut pas avoir un pied dedans et un pied dehors, non. Nous devons aimer notre Dieu, l'adorer de façon exclusive. Nous lisons dans Jean 15, les versets 1 à 5. Je suis le vrai cep, et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il émande afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, si vous ne le pouvez pas non plus, si vous ne demeurez en moi, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et donc l'antidote à la vigne infidèle, l'antidote à cette vigne infidèle, c'est Jésus-Christ. C'est lui la vraie vigne. C'est lui la véritable vigne. C'est pas ce monde dans lequel nous vivons, où les hommes qui sont de passage. C'est Jésus-Christ la vraie vigne. Là où Israël a échoué à porter des fruits pour la gloire de Dieu, Christ a parfaitement accompli la volonté de Dieu. Le veau de Bethel a été détruit, mais l'agneau de Dieu a été immolé pour notre rédemption. À la croix, Jésus a absorbé le jugement qui pesait sur nos faux cultes. Par son sang, il nous rend capables de l'adorer en esprit et en vérité. Et ces versets que nous avons exposés aujourd'hui nous appellent à examiner nos autels intérieurs, à renoncer au veau doré du cœur et à nous attacher à la vraie vigne, Jésus-Christ. Le jugement vient sur ceux qui honorent Dieu des lèvres, mais dont le cœur est éloigné. Mais la grâce vient pour ceux qui disent, comme Osée, dans le chapitre 6, verset 1, « Venez, retournons à l'Éternel. Venez, retournons à l'Éternel. » C'est lui qui donne la vie éternelle. C'est lui qui nous sauve et qui nous lave de nos péchés. Amen.